changeant le regard de la communauté sur le vieillissement.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance qu'on vous accueille chaque lundi à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 pour entendre les autrices et les auteurs de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Cheese 94.3.
Bonjour à tous et bienvenue à mon émission Le temps d'un ginto. Nous sommes à Cheese 94.3 le vendredi à 14h. Mon nom est Rosalie Chabot et aujourd'hui je suis en compagnie d'une de mes amies de longue date, Delphine Brault. Bonjour Delphine, comment ça va aujourd'hui?
Écoute, un petit peu nerveuse, j'ai peur de... Là attends, je vais remettre... Ok, là je m'entends bien, c'est bon.
Ok, super.
C'est ça, je suis en live, hein? C'est
oui,
stressant,
c'est live.
On dirait que j'ai peur de dire une niaiserie, mais...
Ben non, tu vas voir, ça va bien aller. Dis-toi qu'on est les deux, une en face de l'autre, comme ouais, on a toujours été, ça se passe bien.
Exactement.
Pour vous mettre en contexte, cher public, moi j'ai rencontré Delphine... à ma première année du primaire, donc ça fait une couple d'années.
Ouais, on s'est toujours pas amélioré en calcul mathématique en ce temps-là, mais ça fait beaucoup
longtemps.
Non, c'est ça.
Quand même un petit bout de temps. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est avec Delphine parce que pour vous mettre en contexte, Delphine est une étudiante en psychologie à l'Université Laval. D'abord, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi de faire des études dans ce domaine-là?
Moi, la psychologie, ça a comme tout le temps été quelque chose qui m'intéressait. Puis j'hésitais. Rosalie, elle me faisait signe d'approcher au micro. J'espère que tout le monde m'entend bien. Fait que c'est ça. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. J'hésitais beaucoup en psychologie puis psycho-éducation.
Oui.
Puis finalement, j'ai décidé d'aller en psychologie. Là, j'ai dû faire un
choix.
Un choix, finalement. Puis je suis bien contente d'avoir choisi la psychologie.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Quels sont les type de personnes que tu vois dans ton bac qui sont en psychologie? Est-ce que c'est des gens qui ont toujours pensé être psychologue ou mettons c'est des gens qui avaient juste un intérêt pour l'humain, qui ont voulu aller là-dedans?
Je pense qu'on a tous à la base un intérêt pour l'humain. C'est vraiment comme on est tous évidemment passionnés par ça parce que tu sais, c'est psychologie, c'est quand même.
Oui, c'est quand même humain, c'est une science sociale.
Exactement. Mais c'est ça, tu sais. On part toutes. Moi, le phénomène que j'ai vraiment observé en psychologie, c'est qu'on part toutes avec « Hey, je vais me rendre au doc. Je vais faire le doc en neuropsychologie. Tout le monde va aller au doc en neuropsychologie. » Puis après ça, donne-toi comme 2-3 sessions. T'es comme « Ouais, le doc, finalement, il me tente moins. » Tu sais, ça, c'est vraiment... En tout cas, là, je parle par mon expérience à moi puis à quelques d'autres personnes aussi que j'ai côtoyées. Mais c'est vraiment un phénomène global que, tu sais, tout le monde veut se rendre au doc. Finalement, il y en a pas tant qui y vont parce qu'on réalise que « Oh, tu sais, c'est beaucoup de job tout. » Fait que
Je sais que c'est très contingenté, le doctorat en psychologie. Qu'est-ce que ça prend pour se rendre au doctorat?
Écoute, je peux même pas te dire mot pour mot ce que ça prend. Je sais que ça prend beaucoup d'heures de laboratoire. Ça prend là aussi là comme des heures. Faut que tu t'impliques là de façon là. Je pense que c'est du bénévolat. Gars, je peux même pas te le dire honnêtement. Puis faut vraiment que t'aies des excellentes notes aussi. Fait que là, c'est ça là. C'est comme de réaliser que faut que t'excelles un peu partout dans plusieurs domaines. Je pense que c'est ça que tu prends un petit mouvement de recul.
Oui, c'est sûr. Puis est-ce que c'est est-ce que tu ressens une compétition quand t'es...
Oui,
même avec
vraiment...
tes camarades, tes amis de cours.
Oui, oui, tu sais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de compétition. Puis tu sais, en psychologie, si t'es en bas de 90, t'es pas bon. Là, genre, tu sais, c'est vraiment le mot d'ordre. Là, tu sais, c'est comme, ah, OK, pas pire, tu sais.
Pas pire, c'est 87, t'es comme...
Wow. On se t'en prend au prochain. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est très compétitif. Tu sais, c'est comme... Il y a tout le temps... Moi, il y a plusieurs personnes... Tu sais, mettons, je suis arrivée en cours, puis là, mettons, la personne en arrière de moi était comme, « Hey, est-ce que, tu sais, toi, tu t'en vas-tu au doc, mettons? Ah. » Tu sais, c'est comme, « Non, moi, je n'en vais pas du tout au doc. » Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme... Les gens sont stressés par ça aussi, puis je pense que, tu sais, les gens qui vont pas au doc se sentent peut-être un petit peu plus...
Mis à part?
Ouais, peut-être, puis c'est comme... Ça nous sécurise un peu de savoir que, tu sais, c'est correct qu'on aille pas tout au doc au final, tu sais, qu'il y a beaucoup d'avenues possibles.
Ben oui, justement. Est-ce que tu veux nous parler d'autres avenues possibles? Parce que, effectivement, ce qu'on entend quand on pense au bac en psychologie, c'est après ça, psychologue ou neuropsy, mais il y a tellement d'autres professions. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
Oui, c'est ça. Moi, par exemple, je vais soit faire une maîtrise en orthophonie ou une maîtrise en audiologie, qui sont deux avenues possibles avec un bac en psycho. Il faut juste que tu fasses des cours préalables, mais ils rentrent super bien avec le bac, là, fait que ça se fait très bien. Sinon, je pense que tu peux faire une maîtrise en psychoéducation. Encore une fois, il faut que tu fasses des cours préalables pour rentrer. Il y a plein d'affaires. Il y a beaucoup de monde aussi que je connais qui vont en criminaux, en sexologie. Il y a beaucoup d'avenues possibles.
Ça fait une très belle base après ça pour s'en aller dans un domaine comme la criminologie, disons. Oui. J'imagine que tu dois avoir des cas assez spéciaux et spécifiques. Donc, d'avoir une base, c'est sûr que ça aide.
C'est sûr que c'est une bonne base. Tu sais, ça permet vraiment de mieux comprendre l'être humain, comme on disait tantôt. Là.
Oui.
Fait que c'est ça.
Puis justement, après, là, t'es à ta troisième année du bac, donc finissante.
Oui.
C'est drôle à dire. Enfin. C'est drôle de le réaliser. comme t'as passé 2 ans à étudier en pleine pandémie, tout comme moi, je me suis qu'on s'écrivait.
Oui.
La motivation n'était pas à son pic, mais comment t'as trouvé ça, toi, à étudier en pleine pandémie?
Ben moi, je suis une des personnes... Attention, ça va être une opinion controversée. Moi, j'aime ça, les cours à distance.
Oui.
Alors, je vais le dire, ça, pour vrai, je suis mieux dans le confort de chez moi. Je suis beaucoup plus concentrée pour faire mes cours quand je suis chez moi qu'à l'université. Quand je suis en classe, en plus, il y a tellement de monde. Il y a genre 300 personnes dans la classe.
C'est vrai, vous êtes beaucoup.
Il y a des bruits tout le temps. C'est vraiment tannant. Fait que comme quand je suis chez nous, je suis vraiment plus posée, puis tu sais, disposée littéralement à faire mes cours. Puis ce que j'aime aussi, c'est que beaucoup des cours à distance que j'ai fait, c'était vraiment comme en mode asynchrone. Fait que tu sais, vraiment une vidéo que tu regardes, tu fais pause quand tu veux, tu fais play quand tu veux, tu recules si t'as pas bien compris. Tu sais, ça, j'adore ça, c'est pas stressant. Si j'ai pas bien compris ce que le prof dit, je recule, je note, tu sais, puis mes notes étaient beaucoup plus complètes de même. Fait que moi, je dois dire que l'aspect à distance, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr qu'avec le temps, là, je me rends compte maintenant, je suis plus distraite par tout ce qui est distraction chez nous. Tu sais, en classe, t'en as pas de TV, là. Genre, t'as pas l'option de, tu sais, d'écouter une petite émission. Mais là, tu sais, mettons, je suis en train d'étudier dans ma chambre, je suis comme, tu sais, fais-tu une pause, je vais t'écouter un épisode. Mais tu sais, je suis comme, non, genre, focus, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus difficile, là, mais c'est ça.
Et est-ce que tu considères que, en raison du fait qu'on a fait beaucoup de cours à distance, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne, j'ai des habiletés sociales qui sont moins développées qu'avant la pandémie, je dois dire ça comme ça.
Oui, 100%.
Oui, t'as cette impression-là aussi.
Ouais. Déjà que moi, mes capacités sociales étaient peu développées avant. On dirait qu'avec la pandémie, là, ça a fait un énorme clash. Là, maintenant, j'arrive en public. On dirait que je suis pas capable de me faire des amis. Genre, c'est plus une
Mais
capacité.
C'est rendu difficile d'entrer en contact avec des gens.
C'est ça. On dirait, là, je suis comme tout le temps dans ma bulle, puis tout. Puis, tu sais, j'arrive. C'est plate à dire, là, mais j'arrive à l'université, puis si ma classe est pas ouverte, je m'en vais me cacher aux toilettes, là, parce genre, j'en ai pas tant d'amis là, à l'Uni. Là,
mais je comprends, surtout avec 2 ans à distance, c'est difficile de se dire hey, j'ai 20 amis dans mon cours. T'en as comme
c'est
deux,
ça.
Mettons.
Ben oui,
une.
C'est ça. C'est super.
T'es chanceux.
Ouais.
Oui, c'est ça. Puis ce qui est difficile aussi, j'imagine, c'est que comme c'est un bac où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, où est-ce que c'est des gros cours, ça doit être difficile de sentir comme une synergie de classe parce que tout le monde. Il y a tellement de monde que je peux pas croire que tu peux connecter avec 300 personnes à la fois.
Non, c'est impossible. T'sais, c'est sûr que de ce que je constate là, dans mon petit coin tout seul, c'est que il y a comme des groupes de personnes qui se sont formées. Puis tout. Puis je pense que ça. Ma théorie, là, c'est que quand on s'implique, ça c'est mon erreur, mais quand on s'implique dans des comités et tout là en psychologie, oui. Tu sais là c'est évidemment plus facile de faire des liens parce que tu as des rencontres chaque semaine puis tout, faut organiser des trucs ensemble. Fait que là ça je pense que ça l'a comme formé des groupes
des pis, groupes oui.
Ouais, c'est ça. Moi je suis pas quelqu'un qui est bien tripeuse de comité, fait que puis pour vrai, je comprends pas comment que les gens jonglent comité, laboratoire, études puis tout, puis réussissent comment avoir des bonnes notes. Moi faut comme que je sois à 95% de mon temps sur mes études, parce que sinon je n'obtiens pas des bons résultats ou en tout cas des résultats qui me conviennent à moi.
Ah oui, c'est ça, puis c'est propre à chacun aussi, chacun sa méthode de travail. Là, moi, je sais que si je reste 6 heures devant mon ordinateur, je vais sauter un moment donné. Il faut que je prenne une pause, que je fasse quelque chose. Mais chacun a sa méthode de travail différente. Mm-hmm. Est-ce que tu constates également qu'en faisant un bac en psychologie, tes capacités d'analyse sur les gens autour de toi se sont transformés? Est-ce que tu réalises que tu t'observes plus des comportements? Comment ça fonctionne?
Ah, absolument. Pour vrai, ma perception sur les gens a complètement changé parce que c'est ça qui arrive en psychologie. Là, je parle pour moi, là, mais je pense qu'on est quand même une majorité à faire ça. T'es tout le temps en train d'analyser. Là. C'est comme, oh là, fait quelle méthode, là, de quel coping mécanisme qu'elle fait, puis nanana, puis t'es tout le temps. En tout cas, fait que tu sais, c'est sûr, puis là ça devient tannant parce que des fois mettons je sais pas et tu sais t'es avec quelqu'un puis t'es comme ok fait que là t'es comme un petit peu en train de faire du déni, tu sais c'est comme non j'ai pas payé pour une psy là, actuellement, genre je veux pas savoir là, tu sais ça devient un peu tannant pour les autres, mais oui ça change vraiment la façon de voir les gens là, tu sais c'est
oui c'est ça. Puis est-ce que tu considères que ça aurait été une option agréable? Ben agréable. Est-ce que tu te serais vu être psychologue finalement en raison de cette capacité d'analyse là ou pas nécessairement à cause des défis du métier?
Je pense que j'aurais sûrement trouvé manière d'aimer ça, être psychologue, mais je crois que à la longue, je me serais beaucoup tannée, puis j'aurais été tannée de tout le temps analyser du monde, puis de tout le temps là, ok, là, il y a tel trouble, nanana. Je pense que j'aurais pas été heureuse à la longue. C'est pour ça que j'ai comme décidé, ça et plusieurs facteurs, j'ai décidé de comme pas poursuivre le doc.
Oui.
Mais c'est ça. Je trouve que ça a l'air extrêmement difficile comme métier. Là. C'est comme au début, on rentre au bac, on est comme ah, c'est cool, psy. Puis là, genre, plus t'avances, c'est comme fou. Ouais, c'est tout le temps cool que ça. Genre.
C'est très. Je pense aussi que c'est une profession qui est. Excusez-moi, là, mais c'est lourd dans le sens où c'est beaucoup du négatif. J'imagine que tu vas pas consulter parce que ta vie va extrêmement bien. Souvent, c'est parce qu'il y a un problème ou une situation que tu veux régler.
Exact.
Est-ce que tu penses également que la majorité des gens qui rentrent en psychologie ont pour objectif le doctorat parce que c'est ce qui est prisé, si on veut, dans la société, ou
oui,
c'est peut-être méconnu les autres avenues? Là.
Oui, je pense que oui. Puis aussi que, tu sais, le bac en psychologie tout seul n'a pas vraiment beaucoup de poids, là, dans le sens, tu sais, si t'as juste un bac en psychologie, tu sais, il n'y a pas vraiment d'avenue de métier énorme, là. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est ça, tu sais. Puis je pense qu'on sent vraiment comme une pression, tu sais, dès le début, c'est comme, oh, toi, tu vas-tu être assez fort pour faire le doc ou tu seras pas assez fort, là? Tu sais, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est le même que je l'ai senti. Tu sais, ça peut être vraiment différent pour tout le monde. Puis peut-être qu'il y en a justement que la pression, ça les aide à être comme, OK, tu sais, il faut vraiment que je le fasse. Puis, tu sais, il faut que je suive mes rêves d'être psychologue puis tout. Mais c'est sûr que, tu sais, pour les gens qui sont comme plus en questionnement, mettons comme moi, quand je suis rentrée, c'était comme, tu te sens un petit peu insécure, mettons.
Oui, c'est normal. Puis il y a aussi le fait, comme tu disais, que ça prend des très bonnes notes. Ça veut dire que dès le départ, tu dois performer, même si tu es en adaptation par rapport au cégep, par rapport aux apprentissages, par rapport à Mon Portail, qui est l'application de l'Université Laval.
Super application. oui, il faut vraiment que tu aies des bonnes notes dès le début. Puis c'est tough parce que tu n'as jamais eu d'université avant. C'est la première fois. Tu sais, la marche entre le cégep et l'université est. Tu pourras sûrement le confirmer, elle est énorme.
Oui,
moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant une aussi grosse marche. J'ai vraiment fait le saut. Fait qu'il faut comme que tu t'adaptes en un claquement de doigts, là, pour vrai. Là.
C'est ça. Puis, dû au fait, parce que Delphine et moi, on partage un passé assez similaire, dans le sens qu'on a fait les deux. En fait, Delphine a fait 12 ans au Collège du Marie-Tillerie. Moi, j'en ai fait 11. Je suis rentrée en première année, mais Delphine est rentrée en maternelle quand même.
Une vétérante.
Oui, une vétérante. Puis, on a, pour oui dire, que cette formation a pour but de nous rendre assez perfectionnistes, à vouloir performer, à vouloir être dans un... Veux pas, on est dans un esprit de compétition. On n'est pas beaucoup, puis on est formé comme ça. Est-ce que tu penses que d'avoir été à Jésus-Marie t'a donné les aspirations, justement, de T'sais, de vouloir autant performer, d'avoir peut-être une anxiété de performance. Est-ce que tu penses que ça t'a mené à ça aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois ça?
Je pense que oui, pour vrai. Puis c'est comme un couteau à double tranchant, dans le sens, c'est bon parce que, justement, toutes les Jésus-Mariennes, ben non, je dirais pas toutes, je veux pas généraliser puis parler pour tout le monde, mais comme habituellement, les Jésus-Mariennes, on est du monde compétitif, puis on a été rodés de même. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on s'entend, Jésus-Marie, il nous... l'excellence oui. était mise de l'avant là, puis tout, fait que tu sais, on a vraiment été élevés comme ça. Puis en même temps, je suis c'est quoi en français, genre reconnaissante.
Ah oui.
Grateful,
oui c'est reconnaissante,
ça, reconnaissante de ça, parce que ça fait en sorte que tu sais, j'ai de la discipline, tu sais, oui. comme quand en matière de travaux d'école, puis tout, oui. tu sais, j'ai de la discipline, je niaise pas. Dans les travaux d'équipe, tu sais, je suis quelqu'un d'efficace, puis tout, parce que c'est comme ça qu'on a été vraiment...
Ah oui, on a été formés comme ça.
Élevés carrément, là, oh, tu sais, oui. à Jésus-Marie, fait que c'est ça. C'est sûr que, comme tu dis, il y a l'anxiété de performance, parce que, tu sais, à Jésus-Marie, c'était très compétitif aussi, je me souviens, tu sais, on comparait tout le temps nos notes, puis tu sais, le fait que on a été pendant très longtemps juste une école de filles, on était très proches, tu sais, il y avait rien qu'on se disait pas dans le fond, fait que tu sais, les notes, on savait là que je savais, toi t'avais eu quelle note dans ton examen de maths, puis quelle note t'avais eu dans ton examen de sciences, on le savait tout.
Oh, oui, c'était du connu.
C'est ça, on se le partageait tout le temps. Fait que tu sais, c'est ça, je pense qu'on est comme resté dans ce moule là.
Oui, puis je pense aussi que le ben moi j'ai pas eu la même avenue que toi. En fait, je suis en communication, comme vous le savez peut-être, mais c'est pas aussi compétitif en communication dû au fait que c'est extrêmement large. T'as un bac où tu peux te ramasser à tellement d'endroits là. Je veux dire, c'est une formation si on veut de base après ça pour aller choisir l'avenue que tu veux, tandis que comme tu le disais, en psychologie c'est un petit peu plus spécifique, puis avec le bac entre guillemets, là, je vais vraiment dire seulement, c'est plus difficile de trouver une avenue. Comme tu disais, il faut que tu fasses une maîtrise ou tu vas au doctorat. J'ai même su que tu peux faire un DSS à l'enseigner au cégep, par exemple, mais il faut quand même avoir la formation supplémentaire.
Ouais.
Donc, la compétition, la performance est là dès le départ. Est-ce que tu as réussi quand même à te faire des amis à travers cet esprit-là?
Oui, j'ai réussi à me faire des amis. Je vais saluer mon groupe de crotons, si vous écoutez. Fait que c'est ça, j'ai réussi à me faire des amis. Mais tu sais, on dirait que c'est surtout cette année que je l'ai constaté. C'est extrêmement difficile de se faire des amis à l'âge adulte. C'est vraiment pas la même game que quand on était au primaire, là, puis c'était comme OK, je vais genre donner un pissenlit à mon ami là ici, puis on va être amis pour la vie, là, tu sais, on s'entend, toi puis moi, ça a commencé avec des expériences de surligneur.
Oui,
ça
en venait pas gros. Souviens. Non, exactement.
Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai réalisé que c'était comme difficile de Puis comme tu disais, là, avec la pandémie, j'ai oublié, on dirait, la capacité de rentrer en contact avec des gens. Puis c'est comme, tu sais, si tu appropries, tu sais, genre, je vais-tu avoir l'air d'une loser si je vais parler à du monde que je connais pas?
C'est ça, c'est difficile maintenant de vérifier si la personne, elle veut vraiment être en contact avec toi. Mm-hmm. Mais en fait, c'est différent, j'imagine, parce que quand je rentre dans mes cours en communication, en fait, c'est mes premiers cours présentiels en ce moment, là, donc j'apprivoise encore ce phénomène-là, mais les gens parlent parce que c'est en communication. Les gens se présentent. Est-ce qu'en psychologie, il y a un peu le même effet? Non.
Ben, je sais pas, là. Moi, j'ai pas remarqué, là. T'sais, comme j'ai dit, là, c'est sûr que dans les comités, pis tout, tu sais, il y a beaucoup d'activités, là, qui sont organisées. C'est juste, j'y vais pas, là. Tu sais, j'aurais peut-être dû plus pousser, mais c'est comme on dirait aller dans des activités, là, des
comités. Ouais, c'est pas ta nature.
Ça. Ben, c'est pas ma nature. Puis, tu sais, pourquoi j'irais quand je connais quasiment personne, genre, tu sais, ben oui, je pourrais, puis faire mon extraverti, puis tout, mais tu sais, ça me tente pas tant.
Donc, tu te décris plus comme une personne qui est introvertie qu'extravertie?
Je pense que ça dépend des contextes.
OK.
Je pense que je suis comme un mix des deux, ça dépend. C'est sûr que si je suis dans un endroit où je connais personne, c'est sûr que je vais être introvertie, puis c'est pas moi qui va faire comme les premiers pas pour aller parler à du monde, mais quand c'est des gens que je connais, puis tu sais, une atmosphère dans laquelle je suis plus habituée, là, je vais être plus extravertie.
Oui, il y a plus une aisance avec les gens.
Exactement.
Et quand tu parles du baccalauréat, tout ça, je sais qu'il y a des cours qui sont reconnus en psychologie comme étant quelque chose qui est plus difficile. Je sais que vous avez des cours qui sont jumelés avec la faculté de médecine. Est-ce qu'il y a des cours où tu as rencontré plus de défis? Est-ce qu'il y en a que tu as aimé particulièrement pour leur côté scientifique? Comment tu vois ça?
Oui, il y a des cours qui sont extrêmement difficiles. Mais honnêtement, si je peux dire ça, la majorité sont très intéressants. Okay? Ouais. Il y en a comme une coupelle que vraiment j'étais comme ouf, tu sais, comme j'ai choisi le mauvais bac, là, ça va pas du tout. Mais c'était surtout comme les cours de statistiques, tout ce qui est comme recherche puis tout. Mais en même temps, ça en faut des
cours de plus comme
il y
ça.
En a qui aiment ça, là. Il y en a qui adorent ça faire des stats, il y en a qui adorent ça faire de la recherche, il y en a d'autres que non. Fait que, oui. Tu sais, comme au moins, là, tu dis, ben, clairement, moi, je m'en irai pas en recherche, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que c'est ça. Oui, il y en a qui sont extrêmement difficiles. Il y a beaucoup... on dirait que ça se facilite avec le temps parce que t'es comme habitué, genre. T'sais, t'es habitué de devoir prendre beaucoup de notes pis tout. C'est beaucoup de par cœur, là, aussi. Là. On va se le dire. Je vais faire mention à Neuro 2, qui est toute qu'une douleur à faire. Super intéressant comme cours. Pour vrai, c'est juste que le nombre de trucs à apprendre est hors de ce monde. Là. T'sais, ça avait aucun bon sens. Là. Fait que... C'est ça, tu pognes un petit deux minutes des fois, mais comme j'ai dit, c'est ça, là, c'est tough à apprendre, mais au moins c'est très intéressant.
Bon, il y a ça, il y a le côté, effectivement, comme tu disais, stimulant de ces cours-là. Est-ce que ça t'a donné le goût justement d'approfondir un côté qui est plus, je vais dire, médecine, qui est plus scientifique, si on veut?
Ouais, ben moi, pour vrai, tous les cours que j'ai faits qui touchaient plus comme la neurologie, le côté vraiment plus physique là, du corps humain,
oui.
J'ai vraiment adoré ça. J'ai fait un cours là, qui était... Est-ce que c'était de la faculté de médecine? J'essaie de me souvenir. C'était un cours sur les drogues.
Okay.
Et je crois que... Mais il me semble que ça fait... C'était soit pharmacie ou médecine, je sais plus trop. C'était super intéressant, pour vrai. C'était incroyable, je le recommande.
Je pense que tu m'as envoyé une diapositive d'un PowerPoint sur la caféine.
Oui,
je m'en souviens.
Parce que j'étais comme ça, c'est important pour Rosalie qui prend beaucoup trop de café.
Mais je m'en souviens, t'as trouvé ça intéressant, ce cours-là, ça t'a... donner le goût d'en apprendre plus sur le sujet.
Oui, vraiment. Puis c'est ça, là, tu sais, j'ai fait à date... 3 cours de neurologie. Un qui était pour entrer en orthophonie, puis il me semble aussi qu'il est pour entrer en audiologie. En tout cas, adorer ce cours-là. Tu sais, ça parlait vraiment des structures. Moi, quand ça parle de structure du cerveau puis de neurones puis tout, là, genre, j'adore ça. Là. C'est vraiment... Ça, c'est mon dada.
Est-ce que quand tu parles, justement, tantôt, tu disais que t'as failli... En fait, t'as hésité entre le baccalauréat en psychoéducation et en psychologie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui définit la différence entre les deux, vraiment? Est-ce que tu es capable de nous en parler un peu?
Je pense que oui. J'espère que je ne me tromperai pas. Mais de ce que j'ai compris, les psychoéducateurs, éducatrices sont vraiment plus sur le terrain.
Okay.
Eux vont vraiment voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le problème de cette personne-là? Comment qu'on peut s'ajuster? Puis tout. Puis les psychoéducateurs travaillent souvent avec des psychologues. T'sais, c'est tout ce domaine-là, orthophonie, audiologie, psychologue, là, oui. Neuropsychologue, on travaille tout ensemble. Fait que c'est ça. Puis la différence avec le psychologue, c'est que le psychologue va comme plus mettre en action comme les stratégies de comme, okay, comment qu'on fonctionne avec cette personne-là. Mais tu sais, un psychologue, c'est rare que ça va sur le terrain. D'habitude, c'est les gens qui viennent au psychologue. Tu sais, c'est comme...
Oui, je comprends.
C'est ça la différence.
Un peu sous la forme de... Le psychologue va un peu... Je dis passer en entrevue, là, mais dans le sens où
va
discuter face à face avec la personne, tandis que le psychoéducateur va travailler
sur le terrain,
avec
totalement.
Les gens.
Ouais.
Est-ce que travailleur social là-dedans, ça, mm-hmm. ça vient jouer un peu dans le même terrain aussi? Je pense que c'est tous des métiers qui s'entremêlent au bout de la ligne.
Oui, ça vient jouer sur le même terrain, mais honnêtement, je sais pas trop. Moi, travail social, c'était vraiment jamais quelque chose que j'avais considéré.
OK.
On en a parlé un petit peu dans nos cours, mais pas beaucoup. Fait que je pourrais vraiment pas...
On sait pas à quel point c'est interrelié, finalement, là,
ben,
à l'Université Laval.
C'est ça, on travaille comme... Parce que c'est ça qui arrive là, souvent, là, c'est que les domaines connexes là, sur l'humain, les sciences sociales.
Oui.
On finit tous par travailler ensemble, mais c'est ça. Je sais pas comme... mot pour mot, c'est quoi que ça fait un travailleur social, honnêtement. Puis... Je veux pas dire des niaiseries.
Non, je comprends, mais c'est bon aussi de savoir que dans le fond, ces métiers-là sont connexes, mais sont pas nécessairement identiques. Là. Ça prend des psychologues, ça prend des travailleurs sociaux.
Mm-hmm.
Puis quand tu parlais d'être sur le terrain, peux-tu nous donner des exemples? T'sais, sais-tu, je sais pas, là, dans des centres jeunesse, sais-tu dans des... où est-ce que les psychoéducateurs œuvrent davantage?
Mettons, je sais pas, là, tu vas avoir un jeune dans une école, il y a des problèmes de comportement, il est violent, ça marche pas, nanana, puis tout. Le psychoéducateur va venir sur le terrain, va vraiment observer qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, c'est quoi les comportements, puis tout. puis va comme offrir des techniques de OK, là on va faire ça quand telle affaire arrive puis tout, puis tu sais ça peut être aussi, ça peut être à la maison là aussi là. Un psychoéd peut aussi aller dans la maison si justement c'est un jeune qui a des problèmes de comportement quelconque là, puis comme observer OK là on fait quoi là, tu sais s'il arrête pas de faire des grosses crises, puis tu sais c'est vraiment pour aider les parents là aussi là, tu sais ah oui. ça s'en vient lourd là.
Mais justement les patients, je les appelais comme ça ouais. là, mais de psychologie ou tout ça, j'imagine que souvent il faut qu'il y ait un, en anglais c'est support system, mais mm-hmm. qu'il y ait un groupe de soutien
ben oui.
à la maison ou dans leur entourage. Est-ce que tu sais, est-ce que vous le voyez dans vos cours si justement ce cheminement là d'aller consulter est fait seul ou est-ce que c'est appuyé par des proches? Je sais pas si vous le voyez vraiment là.
Je comprends pas ta question, genre est-ce que ça a de l'effet genre?
Oui, ben en fait, est-ce qu'il faut absolument qu'il soit encadré pour suivre un processus de santé mentale quelconque, ou est-ce que souvent ces gens-là font ça seuls? Est-ce que vous avez des
ben,
données là-dessus?
Je pense que, écoute, moi j'ai pas de données là-dessus personnellement, mais je pense que d'un point de vue complètement objectif, le support system est nécessaire là, tu sais, comme pour vrai, mettons je me mets à la place de parent, j'aimerais ça avoir toute l'aide possible si, tu sais, mettons, mon jeune, il y a des problèmes quelconques, whatever, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est beaucoup plus bénéfique d'avoir de l'aide d'extérieur que d'essayer de, comme, tout patenter tout seul quand, au final, tu sais, comme, pas trop quoi faire. Fait que...
Ben, justement, pour les parents, les gens, en tout cas, qui sont entourés d'une personne qui aurait besoin d'aide, comment est-ce que tu. Quelles sont tes recommandations? Parce que jusqu'à un point, on peut. Le support familial ou le support, peu importe, amical, peu importe, ne peut pas tout prendre sur non. ses épaules. Ils ne sont pas des spécialistes. Tu recommandes d'aller, justement, consulter. Je sais qu'il y a quand même des bonnes listes d'attente aussi. Là. Comment
oui,
ça
ben,
fonctionne?
C'est ça là, qui arrive. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de listes d'attente. Mais tu sais, moi, si j'étais parent,
oui.
puis que je voyais là, que là, il y a quelque chose, ça va pas avec mon enfant, j'en manque un problème, je me mettrais tout de suite sur la liste d'attente, comme j'hésiterais pas une seule seconde. Puis tu sais, souvent, ça va pas être juste une personne qui va t'aider, là. Tu sais, tu vas avoir une travailleuse sociale, tu vas avoir une psychoéd, justement, tu vas peut-être avoir un psychiatre, une psychologue, tu vas avoir un neuro, quelque chose. Tu sais, ils vont comme, tu sais, ils vont tous se mettre sur le dossier, puis ils vont pouvoir comme t'aider à ce que ça aille mieux, puis tout, là. Fait que c'est ça. Moi, je recommanderais vraiment de prendre action rapidement parce que c'est ça, là. Plus t'attends, plus ça devient lourd. Puis comme tu dis, le sport amical puis familial, c'est pas assez, là.
Non, c'est ça. Puis venant de gens qui étudient, justement, tout le comportement humain, tout ça, j'imagine c'est pas inné pour quelqu'un de se dire, hey, je vais aller entreprendre des années de thérapie. Ça sonne
non,
quand même
ça.
Comme un gros projet. Mettons, quels arguments est-ce qu'on pourrait utiliser justement pour convaincre les gens d'aller chercher cette thérapie-là? En fait, thérapie, ça sonne gros, mais ça n'a pas besoin d'être une thérapie. Ça peut être quelques séances, de ce que je comprends.
Oui, ben tu sais, c'est sûr que c'est difficile, puis il faut vraiment comme que ça vienne de la personne elle-même. C'est okay. ça qui est touché, parce que c'est sûr que si c'est une influence extérieure, tu vas comme le faire pour les autres, puis pas pour toi. Fait que tu sais, ça, au final, oui, ça va peut-être t'aider un peu, mais...
T'sais, ce sera pas pareil.
Ça sera pas pareil. Il faut vraiment que, comme toi, tu te dises, OK, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Faut que j'aille chercher, comme, une aide extérieure quelconque, puis que tu le fasses pour toi. Faut pas que tu le fasses pour ta mère, pour ton père, pour tes amis. C'est vraiment comme c'est pour toi, là.
Puis comment tu sais où aller chercher de l'aide d'abord? Est-ce que vous vous faites dire, mettons, est-ce qu'on commence par une clinique? Est-ce qu'on commence par un médecin? Je sais que médecin, puisque. Psychologues, souvent les médecins vont référer justement à des
oui.
professionnels en santé mentale. On commence par où quand on veut aller chercher de l'aide?
Écoute, je sais pas exactement, mais tu sais, la possibilité du médecin, c'est vraiment une bonne idée. Souvent, les médecins ouais. vont comme te référer ailleurs, que ce soit un psychiatre ou un psychologue. Sinon, il y a aussi au public, là, justement, les travailleurs sociaux. Tu sais, ça,
ils sont plus dans les... pas les CHSLD, les CLSC.
Oui, c'est ça. C'est ça. CHSLD. Oui, c'est ça. Ils sont plus au public. Là, on peut aller vers eux. Puis après ça, si eux, ils voient, mettons, qu'ils sont pas assez équipés pour aider, ben ils peuvent nous référer ailleurs. Puis tout, là, fait que,
OK, je comprends.
Ouais.
Est-ce que le fait d'être en psychologie comme ça vous a fait réfléchir un peu sur vous-même à force de suivre un baccalauréat en psychologie qui monte, en fait, tout l'humain, là.
Oui.
Comment est-ce que ça t'a affecté de suivre ce bac-là?
Écoute, ce qui arrive en psychologie, c'est que là, tu commences à avoir tous les troubles mentaux, puis tu commences à penser que t'es à toutes aussi.
Oui.
Tu sais, c'est vraiment ça. C'est comme, oh, c'est ça, je suis ça, là. Oh, c'est ça, je suis une trouble de personnalité limite, là. Oh mon Dieu, c'est ça. T'sais, tu vois les critères, puis là, tu commences, t'arrêtes pas, là. Tu sais, ça, c'est un peu tannant.
Oui.
C'est comme difficile de pas se. je sais pas comment l'expliquer, c'est comme difficile de pas se comparer tout le temps aux troubles mentaux qui nous présentent. Ah ben moi aussi je fais ça, puis tu sais.
Oui.
En tout cas, fait que ça, c'est sûr que ça peut devenir un peu tannant à la longue, mais tu sais, c'est, moi je me répète tout le temps, genre arrête là, c'est juste parce que tu les vois puis t'es étudié les troubles mentaux, ça veut pas dire que tu les as là.
Non, tout à fait, c'est ça qui doit être difficile à faire comme séparation.
Ouais, c'est ça.
Puis considérant que vous êtes, je pense que vous êtes quand même une bonne marée en psychologie, comme ouais. tu l'as dit, vous êtes nombreux.
On est beaucoup.
Sais-tu à peu près le pourcentage qui finit par aller au doctorat?
Je sais pas. Très, c'est vraiment petit. Pas. Non, c'est pas gros, là. C'est pas gros parce que, pour vrai, ils prennent vraiment pas tant de monde à Laval. Souvent, moi, ce que je vois, c'est que les gens vont s'en aller à Montréal, mais tu sais, je pense pas qu'ils en prennent tant là-bas non plus. Je sais vraiment. Pour vrai, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais je sais que le pourcentage qui sera est très bas, là.
Puis, tantôt, tu parlais de l'orthophonie et de l'audiologie. Pour les gens ouais. qui savent pas c'est quoi la maison, l'orthophonie, ça ressemble à quoi?
C'est vraiment... L'orthophonie, c'est vraiment comme pour les troubles du langage qui soient... soit qu'ils sont développementaux, fait qu'il y a un trouble de langage que t'as depuis... que tu commences à parler, okay. là. Ouais, c'est ça. Ou qui sont acquis après, mettons, un accident là, cérébral quelconque. Audiologie, ça va vraiment être plus... ça le dit, audio, c'est tout ce qui est son. Les problèmes d'oreille, t'sais, les ajustements d'appareils auditifs, les problèmes vestibulaires là, d'équilibre aussi, là, ça rentre là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit que audiologie, c'est souvent le premier spécialiste qu'ils vont recommander à aller voir quand un parent se rend compte que les bébés, leurs bébés ont un trouble développemental. Ils vont dire, est-ce que vous êtes allé voir un audiologiste? Sinon, c'est tout de suite. Parce que souvent, on s'en rend pas compte, mais tu sais, c'est sûr que si t'entends pas, comment tu veux bien te développer? Puis quand t'es un bébé, c'est très difficile à dire si ton bébé, il entend ou il entend pas. Là, tu sais, c'est comme, non, c'est il va réagir aux stimuli puis tout, là, mais comme tu sais, des fois ça peut comme passer inaperçu, puis au final ton bébé il entend pas tant bien, fait que là ils vont comme corriger ce problème là, puis après ça il va pouvoir se développer. C'est ça.
Puis tu parlais aussi d'autres spécialités qui existent dans le domaine. Est-ce qu'il y a, là tu te parlais que c'est les deux qui t'intéressaient, est-ce que mm-hmm. c'était difficile de faire un choix sur ce qui t'intéressait après le baccalauréat, ou ça s'est fait un peu de soi en faisant le bac?
Ça s'est fait un peu de soi. Tu sais, comme au début, c'est ça, là, comme j'ai dit, je voulais vraiment faire le doc en neuropsy. Puis là, comme plus ça allait, j'étais comme, moi, je sais plus trop si ça me tente, là, pour vrai, là, j'étais comme, ouf. Puis là, tu sais, mais tu sais, j'étais un peu dans le déni, là, tu sais, de comme, moi, je sais plus trop si ça me tente, mais OK, je vais quand même continuer à pousser. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, non, ça me tente pas, là, genre, ça me tente vraiment pas de faire ça. Fait que là, j'ai comme commencé à checker plus c'était quoi les avenues possibles, puis c'est ça, je savais que tu pouvais faire une maîtrise en orthophonie audiologie, je savais ça à ce temps-là? Non, je savais pas que tu pouvais faire ça. Bref, avec les recherches, je suis tombée là-dessus, puis j'étais comme, oh, c'est intéressant.
C'est très connexe, justement, à l'avenue de la médecine. Je sais que tu parlais tantôt des psychiatres. La psychiatrie est au sein de la faculté de médecine, justement.
Ouais.
Je sais que les psychiatres peuvent prescrire de la médication, mais pas les psychologues. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais que vous étudiez pas nécessairement tous les médicaments à travers votre bac en psycho, mais
non,
quand même.
Non, on en étudie. Justement, là, moi, j'ai un cours là, actuellement, puis c'est sur les médicaments. Là. Puis on étudie tous leurs mécanismes d'action, puis tout. Je sais pas pourquoi ils peuvent pas. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont le droit, de ce que j'ai compris. Là, c'est peut-être que je dis un canular total, là, mais il me semble qu'aux États-Unis, ils ont le droit. Mais non, ici, c'est ça. C'est vraiment juste les psychiatres. Je pense que ça doit avoir rapport avec le fait de comme faire tout le doctorat de médecine. Puis tout ça, c'était tellement
c'est ça.
Long.
C'est sûr que c'est poussé aussi, c'est ça, comme médecine. Mais je sais que, par exemple, les psychologues peuvent parler. Ah, je sais que tu pourrais prendre un antidépresseur pour combiner les effets un petit peu plus biologiques à la thérapie.
Ouais.
Mais ils peuvent pas les presser. C'est vraiment le médecin qui doit aller voir.
Ouais.
Alors souvent, on va recommander de combiner médication et thérapie en même temps, c'est ça?
Oui, ça c'est vraiment, on le voit souvent là, dans nos cours, c'est comme médicament tout seul, oui, ça va t'aider, mais tu sais, il va rester du chemin à faire, thérapie, c'est la même affaire. Faut vraiment combiner les deux pour avoir les meilleurs résultats possibles.
Puis est-ce qu'il y a une médication par excellence ou il y a une molécule pour tout le monde?
Non, ça c'est vraiment pour tout le monde. Tu sais, ça dépend. Il y a beaucoup d'effets secondaires avec ces médicaments-là. Fait qu'il faut vraiment comme c'est un petit peu, j'ai l'impression de laisser erreur, là, tu sais, d'être comme, bon, on va essayer ce médicament-là, mais là, ça se peut que la personne n'adore plus, là, au final, là, puis qu'elle ait comme trop d'effets secondaires. Bon, on va en essayer un autre, tu sais, c'est très... moléculaire.
Oui, c'est ça. C'est un principe biologique, finalement, ouais, qui se passe au deuxième, qu'on peut pas contrôler.
C'est ça.
OK, mais c'est super. Merci, Delphine, pour cette première partie d'entrevue. On s'en va une petite pause publicitaire et on revient tout de suite après.
On est maniaque de cheese depuis 25 ans.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Cheese pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Cheese 94.3.
Après 5 longues semaines de campagne électorale, la fin approche. Le 3 octobre prochain, le 43e gouvernement du Québec sera élu et Cheese est là pour vivre cette soirée électorale avec vous. Félix-Antoine Audet, Roxane Bédard et Antoine Pellant-Raté décortiqueront pour vous les moments marquants de la campagne, les enjeux importants et les résultats en temps réel. Ils seront accompagnés de l'équipe de journalistes de Cheese en direct sur le terrain. Rejoignez-nous dès 20h sur les ondes de Cheese 94.3.
Tu veux mettre à profit ton esprit compétitif et te dépasser dans un projet entrepreneurial? Ben, inscris-toi dès maintenant au programme Sport Inc. du CFP Maurice Barbeau et rejoins une équipe aguerrie issue du domaine sportif. Tu seras accompagné par une équipe d'intervenants expérimentés qui t'aideront dans le développement de ton projet d'affaires, quel que soit le type d'entreprise, tant que tu sois passionné de sport. Si le programme t'intéresse, consulte le sportinc.ca, sportinc.ca pour en connaître davantage et t'inscrire à la prochaine cohorte.
Que l'itinéraire que j'emprunte pogné dans tes brumes.
Bonjour à tous et re-bienvenue au 94.3. Mon nom est Rosalie Chabot. On est toujours au Tender Ginto avec Delphine Bro aujourd'hui. On va poursuivre avec Delphine là, pour ceux qui ont manqué peut-être la première partie de l'émission où est-ce qu'elle nous parlait de la différence entre psychologie, le bac également en psycho-éducation et tous les domaines connexes. On est plus rendu à parler un petit peu de l'appliquer sur le terrain. Donc Delphine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de dans quel milieu tu œuvres, sans nécessairement nommer tous les détails de ton travail?
Moi, dans le fond, je travaille avec des personnes qui sont polyhandicapées.
Oui.
Il y en a aussi qui ont des troubles du comportement, des diagnostics là, de type troubles du spectre de... Voyons. Un peu. Diagnostic de type troubles du spectre de l'autisme. Okay, c'est beau.
Quand même.
Ouais. fait que c'est ça. C'est dans le milieu que je travaille.
Est-ce que tu considères ça difficile de travailler avec justement des personnes qui ont des handicaps assez majeurs ou est-ce que ça se passe bien dans ton cas?
Moi, ça se passe vraiment bien. Puis, tu sais, j'ai comme tout le temps baigné un peu là-dedans. Là. Tu sais, mon père, il travaille depuis des années avec des personnes sur le spectre. Fait que, tu sais, j'ai comme été sensibilisée assez jeune à ça. J'ai tout le temps baigné là, dans ce domaine-là, on dirait. Fait que c'est pas quelque chose qui m'a ever rendu inconfortable ou quelque chose de même. J'ai tout le temps été bien. Fait que c'est ça, je suis pas... non, c'est... T'sais, souvent, les gens sont comme, ça a l'air difficile ce que tu fais, mais je suis comme, tu sais, moi, ce que je trouve, que je considère difficile comme job, ça serait genre de travailler avec une caisse puis de répondre à des clients, tu sais. Fait que c'est, je pense que c'est une question de perspective.
Oui, puis chacun sa branche aussi. Là.
Exactement.
On est bon, on a tous des forces et des faiblesses, comme toi, justement. Tu dis que c'est travailler avec les gens. Dans le domaine actuel. Ouais. Est-ce que tu considères qu'il y a un handicap qui est plus difficile à gérer qu'un autre, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus rock'n'roll à gérer? Est-ce que vous avez plus de difficultés avec certains types d'handicaps?
Ben nous, c'est sûr que de base où je travaille, on n'a pas accès au diagnostic des gens qui sont là. Fait que c'est ça. C'est sûr que c'est plus difficile quand c'est des troubles de comportement avec des comportements qui sont violents.
En avez-vous beaucoup des personnes violentes?
Non, on n'en a pas beaucoup. C'est ça. Fait que... ouais, c'est un petit peu plus difficile, mais tu sais, c'est aussi difficile, moi, je trouve, quand c'est des gens qui sont, tu sais, très lourdement handicapés, que, tu sais, ils n'ont pas... tu sais, sont en chaise roulante, qui ont, tu sais, très peu de capacité de mouvement possible. C'est sûr que ça, moi, dans mon petit cœur à moi, je trouve ça plus difficile. Puis, tu sais, c'est... on passe toujours des belles journées, puis tout. Puis, justement, le but, c'est de... c'est que toutes nos jeunes, toutes nos personnes qui sont là, ils passent des belles journées, là.
Oui.
Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut comme... que j'arrête mon entraînement mental de faire comme ouf, tu sais, ça doit être difficile d'être de même, c'est comme là, on faut qu'on justement on s'arrange pour qu'on
travaille avec ce qu'on a puis que ce soit le fun.
Ouais, c'est ça, exactement.
Les jeunes qui vont là, c'est à peu près entre quel âge et quel âge?
Pas juste des jeunes, c'est ça. Okay. Moi, on a tout le temps, on fait tout le temps ça, on dit tout le temps le mot jeune, mais c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on a parce que ça peut aller jusqu'à 30 quelques années.
OK, quand même.
C'est vraiment pas juste des jeunes. Puis je dirais que ça commence autour de 4-5 ans.
OK, ouais. OK. Fait qu'il y a vraiment de la pure jeunesse jusqu'à l'âge adulte.
Ouais, ouais, ouais.
Puis les gens qui sont là, est-ce que souvent sont encore sous la responsabilité d'un proche aidant ou d'un parent? Est-ce que
ça dépend. Il y en a qui sont en résidence. On voit plus ça, tu sais, chez les gens qui sont rendus un peu plus vieux, là.
Oui.
Mais la plupart, là, sont comment t'as bien formulé ça, là,
sous la supervision d'un proche aidant ou d'un parent.
Exactement. Ouais.
Et souvent, les gens qui vont là, justement, là, est-ce qu'ils se rendent compte de leur handicap ou est-ce qu'ils, justement, ont tellement toujours vécu avec ça que ça fait partie de leur vie, ils se posent pas de questions?
Il y en a que oui. Il y en a que non. C'est vraiment du cas par cas. Là,
ça ressemble à quoi, ce que vous faites comme activité avec ces gens-là? Est-ce que c'est plus des activités qui demandent de la concentration? C'est plus physique? Comment ça fonctionne?
Nous, on travaille beaucoup le sensoriel. On essaie de faire les activités là, les plus sensorielles possibles. J'essaie de trouver un exemple. Mettons, je sais pas, on va faire une recette. Mettons, disons, quand on fait une recette, on y va comme vraiment étape par étape avec les ingrédients. On va jouer avec la farine, on va toucher, on va sentir, on va goûter, il va vraiment dans le sensoriel. Puis le but, c'est vraiment aussi d'adapter l'activité à chaque jeune. C'est pas grave, là, au final, là, si ça donne pas un biscuit, on s'en fout. Tout ce qu'on cuisine, c'est dégueulasse. Là, genre, c'est jamais bon, pour vrai. Ça finit toujours par être un complet gâchis, mais c'est juste le... c'est le fun de le faire. Là, c'est vraiment le processus là, qui est important. Là.
Oui, puis quand tu parles justement des activités sensorielles, est-ce que les jeunes, faut pas que je dise ça comme tu dis mauvaise habitude,
c'est ça.
Les gens sont plus dehors à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une combinaison des deux? Est-ce que c'est plus en été, toutes les saisons?
Attends, là, tu demandes, c'est quand je travaille ou juste
non,
en
non,
général?
Non, mais les gens qui viennent à l'endroit, disons. Là.
Genre où qu'on fait ça?
Oui, c'est ça.
La plupart du temps, on est en dedans, surtout là, l'été. Nous, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de participants. C'est ça le terme qu'il faut utiliser.
OK, participants.
on a beaucoup de participants qui font de l'épilepsie. Et la chaleur est un grand déclencheur d'épilepsie. Puis nous, on est à la climatisation l'été. Fait que c'est sûr que si ton jeune, il fait de l'épilepsie, tu feras pas exprès d'aller dehors. Ou si tu y vas, tu te promènes avec un push-push d'eau, puis on essaie de se mettre à l'ombre le plus possible. Puis, tu sais, si on voit qu'il commence à faire trop chaud, c'est pas grave, on rentre, là, tu sais. Fait qu'on essaie comme de, surtout l'été, là, de rester en dedans le plus possible. C'est sûr que l'hiver, c'est plus difficile avec des fauteuils, là, ça reste pris dans la neige, c'est vraiment
mon
pas
Dieu,
l'idéal.
C'est vrai, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Fait que l'hiver aussi, on reste plus en dedans, mais tu sais, quand que les températures sont clémentes et tout, on sort dehors, puis c'est ça, c'est de respecter vraiment les besoins de jeunes. Si on voit que là, ça va pas dehors, on rentre. On est tout le temps mieux en dedans, là, la climatisation. Est bonne.
Puis, considérant qu'il y en a plusieurs qui, comme tu disais, là, mettons, avec l'épilepsie, font des crises, tout ça, comment est-ce que vous gérez ça, une situation de crise, habituellement?
Habituellement, chaque personne a un protocole. Fait que là, si on voit là, de quoi de louche, puis on est comme « Oh! » Ça commence! Le premier réflexe, c'est toujours checker l'heure.
OK.
Faut noter, souvent, la plupart du temps, il faut checker... faut checker l'heure parce que sur le protocole, ça va être genre, bon, OK, on s'inquiète pas avant 5 minutes, mais là, à partir de 5 minutes, là, on peut commencer à comme se mettre là, d'action, là, soit qu'on va donner une médication d'urgence, soit que ça va être carrément l'ambulance. Là.
OK. Ouais. Est-ce que ça arrive fréquemment ou c'est
Moi, de toutes les années que j'ai travaillé là, un code d'ambulance, là, je pense que j'en ai vu un.
OK.
Mais il y en a, je sais qu'il y en a eu plus qu'un, c'est juste qu'habituellement, on fait ça de façon assez, s'il faut le faire, on le fait ça de façon subtile. Les jeunes, on essaie de pas en parler, là, tu sais, on va pas être là, OK, l'ambulance arrive, tu sais, on fait comme si de rien n'était. Les gens concernés restent, dans leurs locaux. Moi, la fois que c'était arrivé, c'était justement comme, il avait comme dit que là, c'est ça, là, l'ambulance arrivait, fait qu'on s'était mis dans, moi, j'étais avec un jeune, puis on s'était mis dans un local, fallait comme attendre que, il avait fini de faire le transport, fallait comme dégager les corridors, là. C'est pour ça qu'on était restés dans un local, fait qu'on attendait que ça passe. Puis c'est le seul moment que je m'en suis rendu compte. Le reste du temps, là, c'est quand même assez rare. Là,
OK, puis c'est discret pour pas alarmer, j'imagine.
Oui, ben, parce que c'est très anxiogène pour les j'allais dire les jeunes, les participants, là, tu sais, c'est, on veut pas les stresser avec ça, fait que c'est ça, puis tu sais, c'est pas non plus d'ignorer la situation. S'ils nous posent une question, ben, pourquoi qu'il y a une ambulance, là? Qu'est-ce qui se passe? On va leur en parler, puis tu sais, ben, tu sais, bon, là, il y a un ami, tu sais, qui filait peut-être un peu moins bien, puis tout, fait que c'est ça.
Puis est-ce que les parents, disons, qui viennent, admettons que c'est toujours un jeune, et je ne généralise pas, ce ne sont pas tous des jeunes, les parents qui viennent les reconduire à votre, j'appelle-tu un camp, un centre?
Ben l'été, c'est ça, c'est un camp, mais l'année, c'est un, peut dire un centre de répit.
OK, genre. Ben ouais. Dans le centre de répit, est-ce que c'est des parents qui souvent sont obligés de faire une pause du travail à un moment donné pour prendre soin de leur enfant, ou est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de faire ça? Est-ce qu'ils sont placés en résidence à un moment donné?
C'est sûr que ça dépend. Tu sais, le camp, la fonction principale, c'est probablement parce que, tu sais, c'est ça, les parents travaillent.
Oui.
Les répits, c'est tout le temps la fin de semaine ou pendant soit des pédagogiques ou les fériés. Fait que ça, c'est vraiment plus... Je pense que c'est, tu sais, carrément... C'est un répit pour les participants, mais aussi pour les parents. Tu sais, des fois, comme on a envie d'être plus zen à la maison, tu sais, puis souvent, les parents, ils ont d'autres enfants aussi là à s'occuper. Fait que, tu sais, ça leur permet peut-être de passer, tu sais, vu que, tu sais, un jeune qui est ou un participant polyhandicapé, ça prend beaucoup plus d'attention de la part des parents, mais là, ça leur permet de mettre plus d'attention sur les autres enfants.
Tout à voilà. fait. Puis je m'y connais vraiment pas, mais je sais pas si les handicaps sont héréditaires, si c'est familial ou si c'est du...
Ça dépend.
Ça dépend. Ouais. Alors, à ce moment-là, ça veut pas dire qu'un parent a un enfant handicapé, que le deuxième va l'être non. nécessairement.
Non.
Et est-ce que le fait que vous avez, je sais pas combien vous en avez, là, des gens, des participants, justement, à ces événements-là?
Je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais d'habitude, l'été, on se rend jusqu'à 70, à peu près.
OK. Ouais. Et ça, c'est par centre. Dans le fond, j'imagine qu'il y en a plusieurs à Québec, ou c'est à un endroit seulement?
Nous, on a... Attends un peu. On a 4 points de service.
OK. Ouais. Puis vous n'êtes pas le seul centre de répit qui offre
non,
ce genre
ça,
de service-là.
Non, c'est ça. Il y en a plein d'autres.
Puis les gens qui sont placés dans des résidences, c'est dans quelles circonstances? Est-ce que c'est à partir d'un âge minimal?
Moi, ce que j'ai vu le plus souvent, honnêtement, c'est soit que c'était des jeunes qui étaient comme très, très, très violents, puis que là, c'était plus possible à la maison, surtout si le jeune, il y a des frères et sœurs, là, tu sais, à un moment donné, c'est plus vivable. Ou que là, tu sais, ils atteignent comme une certaine âge, puis tu sais, les parents aussi atteignent une certaine âge à un moment donné, puis sont peut-être plus fatigués pour s'en occuper. Ça requiert beaucoup de soins, fait que là, sont placés dans ce temps-là.
Quel genre de soins est-ce qu'ils vont avoir besoin? Est-ce que c'est des suivis médicaux adaptés? Oui.
C'est vraiment tout, là. Tu sais, c'est les suivis médicaux, c'est aussi, là, les soins, l'alimentation. Quelqu'un en fauteuil, tu sais, ça se peut qu'il soit pas capable de manger tout seul. Ben là, faut faire soit par la bouche, sinon, ça va être par gavage. Il y en a beaucoup qui sont gavés par l'estomac, carrément, là. Fait qu'il y a ça, tu sais, il y en a aussi qui, tu sais, deviendront jamais propres, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme de faire, tu sais, carrément les changements, tout, là. C'est vraiment tout faire, là, tu sais.
Mon Dieu, OK.
Oui, fait que c'est très lourd, là, pour les parents, là. Ils ont beaucoup à faire.
Ah, j'imagine. Puis
c'est pas comme ça pour tous les parents, mais, tu sais, là, je parle, mettons, des cas, mettons, les plus avancés, là.
Et étant... une employée là-bas depuis quand même quelques années, là. Je sais plus exactement combien d'années, mais ça doit faire 5-6 facilement.
Je me sens que ça fait... j'ai commencé quand j'avais 16 ans.
OK, fait que ça fait 6 ans
ça
quand
même.
Ça fait
6 ans, ouais.
Est-ce que tu considères que tu as acquis assez de formation pour être capable de t'occuper d'un jeune seul? Ou comment ça fonctionne?
Ouais. Dans le fond, nous, c'est ça, on a comme des accompagnateurs qui vont comme être du 1 pour 1 ou du 1 pour 2 okay. avec des jeunes. Fait que, mettons, un accompagnateur pour un ou deux jeunes, dépendant de comme la difficulté slash facilité, là, de comment ça se passe. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, là, il y a les rôles qui sont comme plus hauts, que tu sais, là, c'est plus de comme gérer le groupe ensemble. Là, t'as pas un jeune attitré ou un, pardon, un participant attitré à toi. Fait que c'est ça.
Est-ce que vous êtes beaucoup dans votre équipe ou ça varie selon les années?
Ça varie, là. C'est ça, là, ce qu'on observe, là, avec la... Mais là, on est-tu dans une récession, là?
On s'en vient, oui.
Oui, c'est ça. C'est ça, là. Il y a beaucoup de centres de répit, là. J'ai entendu dire qu'on manque beaucoup de personnel, là. Tu sais, nous autres, on l'a vécu cet été, là. C'était rough, puis c'est ça. Mais c'est comme ça partout.
Ben oui, c'est ça. Il y a un manque de personnel... planétaire, là, on oui, manque de monde là. Partout. Mais ça affecte même vos services. Puis est-ce que ça a impacté, tu dirais, la qualité de votre service ou vous refusez peut-être de prendre des gens parce que vous êtes passé, vous voulez garder une qualité?
Ouais, justement, tu sais, pour garder la qualité, on a refusé des gens parce que là, ça venait que ça avait pas de bon sens. Fait que c'est ça. Puis on a comme augmenté nos ratios, là. Tu sais, c'était rendu comme, mettons, un accompagnateur pour trois participants. Fait que là, ça, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on restait comme le plus possible, tu sais, en groupe. Fait que là, comme ça, comme tout le monde s'occupait de tout le monde en même temps. Genre.
Tout le monde peut prêter main forte si jamais il y a une crise ou quoi que ce soit.
Oui, c'est ça.
Puis dans l'éventualité, où est-ce qu'il y a une crise, où est-ce que le jeune, comment tu me disais ça, pas perd ses moyens, mais...
Désorganisation.
qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que vous l'éloignez du groupe? Est-ce que vous le calmez individuellement?
Ça dépend, tu sais. Le plus possible, ça va être si... Si, mettons, le participant fait une crise à la place où que le groupe, le mieux, c'est de sortir le groupe carrément. Parce que de sortir le participant des organisations, ça peut être autant difficile que dangereux. Là.
OK.
Mais souvent, justement, tu sais, nos cocos qui font des organisations, ça, c'est vraiment juste du un pour un. Tu sais, jamais qu'on le mettra, qu'on va le mettre comme avec... c'est dans un ratio avec d'autres participants parce que là, si justement, il y a une désorganisation, là, tes autres participants, ils sont comme délaissés, là. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est vraiment, là, de l'assister, de comme... faut aussi essayer de comprendre, là, c'est quoi qui s'est passé, tu sais. Qu'est-ce qui a créé ça? Comment, tu sais, c'est quoi le déclencheur? Puis après ça, comme on peut mieux comprendre, là, après le futur, bon, on sait que là, ce bruit-là, on n'aime pas ça, on va essayer d'éviter les situations que, tu sais, il y a un bruit là, comme ça là, qui peut... Attends, je donne un exemple, là, ça peut être n'importe quoi. Là, tu sais.
Est-ce que vous êtes habitué de vivre des crises au quotidien?
Oui. On est habitué, c'est la routine. Fait que, tu sais, on est équipé, on sait quoi faire.
Oui, justement, quel genre de formation est-ce que vous avez en rentrant dans un travail comme ça?
On a vraiment des formations qui touchent un peu à tout, là, autant ce qui est, alimentation, tu sais, pour les jeunes là, que participants, pardon, je vais m'habituer. Ça fait juste 6 ans, je travaille. Fait que c'est ça, pour les participants, tu sais, qui ont besoin d'aide pour l'alimentation, et tout ce qui est pour les déplacements sécuritaires, tu sais, quand il faut, mettons, les débarquer du fauteuil, bon, comment qu'on fait pour que ça soit sécuritaire. Pour ce qui est plus des désorganisations, on a des formations aussi, mais ça, je trouve que t'apprends vraiment plus en le vivant. Tu sais, là, t'es dedans, faut que t'agisses, t'as pas le choix, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça. Puis, tu sais, ça dépend vraiment aussi des jeunes. Puis nous, ça s'en vient qu'on les connaît bien. Fait qu'on est rendu bon.
Là. Oui, c'est ça, vous êtes habitués.
C'est ça.
Et je me souviens qu'il y a eu quelques fois où tu t'es ramassé avec, je vais appeler ça des séquelles physiques.
Oui, c'est arrivé.
Puis même assez fréquemment. Comment toi, tu gères ça après ça? Une fois que tu te retrouves seule, est-ce que t'as eu plusieurs, pas blessures, là, mais des moments de panique?
Habituellement, je suis quand même rendue bonne là, pour esquiver. Là, c'est, avec les années, là, les coups, on les voit venir, puis on est quand même bon pour comme les
esquiver.
Les esquiver. C'est sûr que là, des fois, il y a des situations que c'est comme c'est impossible, on peut pas les esquiver, puis bon, regarde, ça arrive. Moi, j'ai jamais eu de quoi de trop grave. Là, j'ai vraiment juste eu des bleus, puis je bleute facilement. Fait que c'est pas trop pire, mais c'est ça. Là, c'est sûr que notre sécurité, c'est vraiment la priorité. Puis, tu sais, si c'est une crise qui est trop explosive, nous, ce qu'on fait, c'est que carrément, on va sortir. Si, mettons, le participant est dans une pièce, nous, on sort de la pièce puis on attend.
OK.
Ouais.
Vous pouvez le laisser seul tant qu'il n'y a pas de.
Oui, c'est ça. S'il
n'est
pas se blesser, ouais, on peut agir, évidemment. Mais, tu sais, s'il n'y a aucun danger puis que lui, il vit ses émotions, au pire, il lancera ses souliers, il le regarde pas grave. Mais, tu sais, comme si. Notre présence dans la pièce le dérange puis nous charge tout le temps pour nous attaquer, mais on sort.
Ouais, je pense que vous faites bien aussi là, comme tu dis, la sécurité c'est la priorité autant pour Le participant, je cherchais le mot.
Oui, on est bonne.
Que pour vous. Merci Delphine, c'était super intéressant.
Ça m'a fait plaisir.
Comme entrevue. On peut te suivre, je sais que, là, que t'es active tout de même sur les réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook, LinkedIn, mais ça fait un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps.
Merci de m'avoir invité, merci pour le gin tonic, c'était super bon.
Oui, parce que pour on est quand même concept, hein, autant d'un ginto, on prend un petit ginto.
Vous le voyez pas, mais on en a un.
Ah non, on en a un, c'est toujours plus fun. Donc on se laisse pour un beau week-end, tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là avec nous au Chiz 94.3, le temps d'un ginto de 14h à 15h. On se retrouve chaque vendredi. La semaine prochaine, je vous réserve un invité bien spécial dans le domaine de l'enseignement. Sur ce, bon week-end à tous. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Chiz 94.3 de 14h à 15h.
Le temps d'un ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
Le Beatnik Show.